Bruce Willis. On a un petit problème d'eau en bas. La loi a été coupée. Chose qui arrive. Père Céleste, nous sommes encore rassemblés ce soir dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Dieu incarné, qui est venu sur la terre servir l'expiation pour nous tous. Il est mort, il a ressuscité pour notre justification. Afin que par son sang, soyons parfaits à tes yeux. Rendre ainsi possible notre communion qui avait été brisée par le péché avec toi. Pourquoi nous te sommes reconnaissants de nous l'avoir envoyé. Nous sommes reconnaissants d'être venus, d'avoir fait, d'avoir accompli cette œuvre qui nous rassemble à nouveau. Nous pouvons encore communier avec le Dieu vivant. Merci de nous avoir conduits dans nos prières, dans l'adoration, car tu en es digne. Louange. Maintenant, nous te demandons, selon ta promesse, que l'Esprit qui a poussé des hommes à écrire ces choses que nous allons lire, puisse lui-même nous venir en aide, interpréter pour nous, faire l'interprète. Il y a des choses que nous lisons que nous ne comprenons pas. Nous voulons toujours avancer selon le tempo que tu nous donnes. Nous savons qu'au jour voulu par toi, nous comprendrons de ta volonté. Et tu avais dit à Pierre une fois, en disant, ce qu'on fait maintenant, tu ne le comprends pas. Que tu comprendras plus tard. Et Pierre a compris par ta grâce. Pour nous comprendre ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, au jour voulu par toi, te faisons entièrement confiance. Te remettons aussi le problème d'eau qu'il y a dans l'appartement, dans l'immeuble, que cela ne soit pas un sujet de distraction pendant le temps qui t'est donné. T'es imparti. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Nous lirons ce soir dans Actes chapitre 2. Verset 14, à partir du verset 14. Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Quand il dit à la troisième heure, il ne faut pas conclure directement disant c'est 9 heures. Ceux qui vont à l'école, bon, il y a première heure de cours, deuxième, troisième heure, pas à une heure déterminée, 9 heures. Non, c'est en longueur. La neuvième heure commence à partir de 1 minute jusqu'à 9h50, 9, si pas jusqu'à 10h, et puis après, quatrième heure commence. Ça va? Ça, c'est juste pour la lecture de la Bible, mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet ce soir. Donc, il faut garder ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce soir, nous parlerons un petit peu. Selon ce qui est dit au verset 17, dans les derniers jours. Ben, nous parlerons justement dans les derniers jours. Ce sera le sujet ce soir, le titre. Et en ce qui concerne l'Église, comme la prophétie de Joël, qui était prévue pour les derniers jours, vient de s'accomplir en ce moment-là, nous comprenons que les derniers jours commencent là. Ça va? Donc, les derniers jours commencent là. Ce sont en fait les deux derniers jours de grâce qui nous sont accordés. Dans ces derniers jours, l'apôtre nous dit qu'il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3. Dernier millénaire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, quel jour, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Terrible comme tableau qui nous est présenté dans ces derniers jours. Et l'autre continue, il nous dit, dans Timothée 4, en fait, l'Esprit lui-même parle. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Arrêtez là. Pourquoi nous lisons un peu toutes ces choses? C'est pour que nous puissions réaliser le temps dans lequel nous vivons. C'est un temps où, dans l'Odyssée, il nous est dit que un temps où les gens pensent qu'ils sont riches, mais en fait, ils sont pauvres. Ils pensent qu'ils voient, mais en fait, ils sont aveugles. Ce sont des temps difficiles. Temps où les gens pensent vraiment rendre un culte à Dieu. Dimanche passé, il s'est passé quelque chose au Congo qui a un peu ébranlé le Congo. Assez triste ce qui s'est passé, c'est même très triste. Le Tabernacle Shekinah, tabernacle de Frère Dioka, a brûlé, a été incendié. Si vous avez eu l'occasion de voir ce bâtiment, c'était un très beau bâtiment. Un peu comme le temple de Jérusalem qui était beau, qui faisait la fierté. Les disciples, Shekinah tabernacle faisait la fierté des fidèles. Et aller là-bas. Nous, nous sommes ici dans un endroit où à peine si on oserait dire à quelqu'un de Shekinah Tabernacle, non. Nous, notre endroit, c'est la rue de Firlan. Ça ne paye pas des mines, mais ce que nous pouvons faire, au moins, nous pouvons nous rassembler, adorer Dieu, le louer. Mais ce n'est pas parce que les bâtiments, parce que les zélotes ont commis cette erreur-là à l'époque, lorsque les Romains les ont attaqués, ils sont allés se réfugier dans le temple. Il s'est passé de grandes choses dans ce temple. Les zélotes sont partis se réfugier dans le temple, croyant que les Romains n'allaient pas oser entrer dans ce temple-là. Vous savez, il y a de ces immeubles, rien que par leur beauté, leur que ça dégage, on y réfléchit à deux fois avant d'entrer. Mais au-delà de tout ça, nous, on va revenir, non pas à l'immeuble, on revient à Jésus-Christ. Nous sommes ici pour parler de lui. J'ai juste dit à ma femme, j'ai dit, c'est triste pour eux. Je crois que ce sont des gens pour lesquels il faut prier. Il y en a qui pleuraient vraiment. Ils étaient malheureux de voir leur Shekinah brûler ainsi. J'ai juste dit à ma femme, j'espère que dans tout ce qui est brûlé, les photos du frère Branham également sont brûlées. Et tous ces objets que l'on met sous appellation d'objets de message ou des trucs comme ça, j'espère que ça a brûlé. L'immeuble pouvait même rester entier et les photos brûlent. Parce qu'imaginez-vous deux secondes, que l'immeuble est brûlé, que ces photos-là n'aient pas brûlé, imaginez-vous ce que les gens allaient penser. Et ce qu'on allait essayer de vous faire avaler. Ces photos-là n'ont aucun pouvoir. Une fois, quelqu'un est venu ici, je sais qu'il fréquentait là, il fréquente là. En venant ici, il est venu deux, trois fois, et puis une fois, ça, c'était plus fort que lui, là, il m'a appelé sur le côté, il m'a dit, je ne vois aucune photo du prophète ici, frère, on n'en a pas besoin. On vient ici pour adorer Jésus-Christ. Oui. Ah. Non, toutes ces histoires où les gens mettaient les photos et qui se mettaient presque à prier devant la photo, c'est une bonne chose que Dieu a enlevé ça. Vous savez, c'est Dieu qui a demandé à Moïse d'élever le serpent d'airain. Vous savez que les gens commençaient à adorer le serpent d'airain. Il a fallu qu'on détruise ça. Et c'est ainsi, tout ce qui est image, idolâtrie, ça doit disparaître. C'est un temps difficile, c'est un temps où Jésus dit, ici dans ces derniers jours, dans Matthieu 24, on vous dira, le Christ est ici, le Christ est là-bas. Un temps de séduction. Vous ne pouvez pas comprendre combien c'est un temps difficile pour les croyants. On peut facilement vous ébranler par des doctrines. Plein de doctrines qui vont venir, qui peuvent ressembler que ce sont des doctrines venant de Dieu, mais en fait, ce sont des doctrines de démons. Dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, l'apôtre, verset chapitre 2, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez ? Et il passait des moments difficiles, parce qu'il passait des moments difficiles, eh bien, ils ont réuni, certaines personnes ont réuni des écritures ou des écrits quelque part, ou des commentaires de l'apôtre Paul quelque part, qu'il ait des commentaires, si on image ça, disons qu'il ait fait ça lors d'une partie de chasse, comme le frère aimait bien aller à la chasse, et puis on va venir vous coller cela, disant, frère Branham a dit. Et j'étais un peu content du fait que quand le pasteur a parlé à l'église, à son assemblée, après l'incendie, il a pris la Bible. Ce qui était rare, il prenait des brochures. Il dit, ah, gloire à Dieu. Il dit, aujourd'hui, il a lu la Bible. Mais rien ne peut remplacer la Bible. Des hommes ont écrit de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Non pas pour faire annuler cela, non. Les brochures, c'est très bien. C'est Dieu qui a demandé à ce qu'on mette cela en réserve. Ça a été mis en réserve. Mais vous savez que les choses, s'il y a des choses à corriger dans les brochures, le Saint-Esprit le fera. Et Père lui-même n'arrêtait pas de dire que si ce que je dis ne concorde pas avec la Bible, c'est la Bible qui a raison. Dieu a permis que cela soit brûlé, il peut aussi permettre qu'ici aussi soit brûlé. Si ça devient un objet d'orgueil, notre immeuble, notre assemblée, ne soyez pas orgueilleux, soyez humble. Dites merci à Dieu. Et dans les derniers jours, malheureusement, les critères qui montrent que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ces critères sont mis de côté, les critères bibliques sont mis de côté, et on prend des critères humains. Nous en restons toujours à la Bible et au Saint-Esprit. On l'a dit dimanche, si nous avons une pensée, une inspiration qui vient, si c'est une inspiration personnelle, vous pouvez être certain que c'est faux. Il faut que l'inspiration vienne. Amen. Ça peut paraître juste, c'est vrai, il y a la souffrance, c'est vrai, il y a les guerres. Alors je viens vous dire, vous voyez, tout ça, c'est parce que la Bible dit que... Je peux citer la Bible, mais ça peut ne pas être juste. Aussi, il est important de venir, d'écouter toute prédication, pas seulement ici, n'importe où vous allez. Ne faites pas confiance que tel évangéliste, il est internationalement connu. Ça ne veut rien dire. Amen. Vous savez, à l'époque de Pierre est internationalement connu aujourd'hui, mais à son époque, il n'était pas internationalement connu. Bien. Et pourquoi l'apôtre dit ce sont des temps difficiles. Dans 2 Timothée 4. Il dit, Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, ce que nous attendons, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Genre, troisième Adam. C'est agréable de l'entendre. C'est agréable de le dire. Mais il n'y a pas de troisième Adam. Tout cela, ce sont des choses qui se passent dans les derniers jours. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y a une écriture qui m'a toujours étonné. Paul dit aux Corinthiens, il dit ceci, après tout ce que les Corinthiens ont vu, dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il est venu avec une doctrine, le serpent. Dites amen à ça. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est étonnant, n'est-ce pas? Qu'à ce niveau-là, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, à ce niveau-là, ils en arrivent à cela. C'est pourquoi, pour contrer toutes ces choses dans les derniers jours, Dieu qui connaît la fin dès le commencement, Dieu avait prévu dans les derniers jours de donner, de répandre le Saint-Esprit à toute chair, pour que justement les siens ne se laissent pas séduire. Amen. Le Saint-Esprit est donné aujourd'hui dans ces temps difficiles. Jésus a dit, Matthieu 24, les esprits seront très proches, tellement proches que ça pourrait même séduire les élus, si cela était possible. Le problème, ça ne sera pas possible parce que les siens, il leur a promis le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça va peut-être vous choquer. Sans le Saint-Esprit, vous êtes incapable de dire correctement que Jésus est Dieu. Corinthiens 12. Vous le direz peut-être parce qu'on le dit à l'Assemblée. Vous le direz parce que vous l'avez... Mais vous ne comprenez pas très bien ce qu'on vous dit. Ce que vous dites. Dans 1 Corinthiens 12, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est-à-dire maudit. Si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire. On ne fait pas de politique, mais c'est juste pour vous montrer combien les gens deviennent blasphémateurs. Quelqu'un, juste pour être bien vu par le chef, vient, il raconte, il dit, oui, le chef a remis, lors de son investiture, il a remis le pays entre les mains de Jésus. Si le pays ne fonctionne pas, c'est à cause de Jésus. Et il dit ça ouvertement devant les journalistes. L'Esprit nous met en garde. Dans les derniers jours, les hommes deviendront blasphémateurs. Oui. Juste pour un mets, pour la soupe, ils disent n'importe quoi. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si Jésus est le Seigneur, vous aurez de la crainte à prononcer ce nom. Nous disons facilement Jéhovah, Dieu. Vous savez, le juif n'ose même pas écrire le nom en entier. Il écrit des lettres. Tellement il a la crainte de ce nom. Et aujourd'hui, le juif, c'est le nom qu'on lui a donné en ce temps-là. Aujourd'hui, le nom qu'on nous a donné, acte 4, n'est-ce pas ? Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Et il nous a dit que tout genou, dans Philippiens, tout genou fléchira devant ce nom-là. Dans ces derniers jours, donc, Dieu a décidé d'équiper ses serviteurs et ses servantes, de les équiper du Saint-Esprit pour qu'ils ne se laissent pas conduire à tout vent de doctrine. Car c'est le temps le plus séducteur, et ça le prophète de l'âge l'a dit, c'est le temps le plus séducteur qui ait jamais existé. Où des gens viendront, il y en a qui feront même des prodiges devant vous. Il y en a qui vous diront des choses, mais le Saint-Esprit lui-même discernera si c'est oui ou non le Seigneur. Nous avons lu cela la semaine passée. Simon, le magicien, il faisait des prodiges à tel point que la puissance qu'il dégageait, les gens appelaient cela la puissance de Dieu, la grande. Mais quand les apôtres sont venus, acte 8, quand les apôtres sont venus, lui-même, Simon, était dans l'étonnement. Il a voulu acheter le Saint-Esprit. Et il lui a été dit, ton argent périsse avec toi. Saint-Esprit ne vient pas ni d'argent. C'est une toute autre puissance. Puissance de la résurrection. Dans les temps difficiles, Saint-Esprit vient, vous garde de maudire Jésus-Christ, disant que Jésus est anathème. Quand Dieu a permis à Satan de s'en prendre à Job, Dieu a équipé Job de telle manière que les souffrances qu'il subissait ne l'ont pas poussé à blasphémer. Si Job a tenu le coup, c'est parce que le Saint-Esprit était sur lui. Sans cela, avec tout ce qui lui est arrivé, Job, chapitre 1er, et dans les derniers jours, les gens seraient tellement cruels, seront tellement cruels, déloyaux, insensibles, que vous risquez un jour de vous asseoir à cause des problèmes que vous avez, vous asseoir et dire, et écouter l'autre venir susurrer à votre oreille, vous dire, maudit Dieu, et meurt. Dans Job chapitre 1er, Satan dit ceci, verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Nous qui sommes ici ce soir, dans cet âge compliqué de Laodicée, sommes-nous ici de manière désintéressée ou bien nous avons un intérêt quelque part? Et si oui, quel est cet intérêt? Satan croyait que pour Job, c'était parce que Dieu l'avait béni dans beaucoup de biens de ce monde, que c'est pour cela que Job servait Dieu. Et même aujourd'hui, parfois, lorsque vous dites à quelqu'un, au travail, à votre collègue, à un collègue ou à une collègue, que vous êtes un fervent croyant, il y a des chances qu'il vous pose la question, quoi, est-ce que tu as des problèmes? Moi, je ne sers pas Dieu parce que j'ai des problèmes. Je sers Dieu parce que je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est mon sauveur. Je crois qu'il est mon rédempteur. Et Satan dit, ce n'est pas d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Il dit à Dieu, tu l'as protégé. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, non seulement lui, sa maison et tout ce qui est à lui. On ne peut même pas toucher quoi que ce soit à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ce qui se passe là, cela s'est passé avec les disciples. Ce n'est pas d'une manière désintéressée qui te servent. Les Pierre, les Jacques, les Jean. Mais permets-nous de les toucher et tu vas voir, ils vont te maudire en face. Ils ont été persécutés. Ils ont été martyrisés. Ils ont été jetés en prison, en exil sur l'île de Patmos. Paul, on l'a même jeté par la fenêtre. Il a été laissé pour mort. Il a dit, par quelle souffrance ne suis-je pas passé? Tout ça, parce que Satan dit que si je le touche, laisse-moi m'occuper de lui, tu vas voir, il va te maudire en face. Or, Paul ne croyait pas au Seigneur juste parce qu'on lui avait enseigné. Il croyait au Seigneur parce qu'il l'a rencontré. Le Seigneur lui a parlé et lui, il a parlé au Seigneur. Dieu lui a montré qu'il était Dieu. Ce qui fait aucune souffrance dans le monde ne pouvait lui enlever ça. Amen. Nous ne sommes pas croyants ici à la rue de Firland parce que nous avons un bâtiment. Non. Nous avons cru en lui même avant que nous ayons le bâtiment. Que Dieu soit loué. Et si je dois pleurer un jour, je pleurerai peut-être parce que... Ah, peut-être je pleurerai parce que Dieu... C'est toi, en tout cas, m'a rejeté loin de sa face. Là, je pleurerai. le bâtiment, s'il brûle, moi je vous dirai, Dieu en pourvoira un autre. Et t'amène à ça. Donc, s'il brûle, c'est pour nous montrer que nous n'avons pas à idolâtrer l'immeuble. Temple, il était bien beau, Dieu a permis qu'il soit rasé. Temple construit pendant 40 ans. Donc, pour pouvoir passer toutes ces difficultés énumérées par l'apôtre, Dieu vous promet le Saint-Esprit pour que vous puissiez vous en sortir. Pour que je puisse m'en sortir. Devant l'insensibilité des hommes, Dieu me promet le Saint-Esprit. Et Satan, qui se retire devant la face de l'Éternel, il va toucher à tout ce qui appartient à Job. Mais bon, ça ne va toujours pas. Finalement, il revient chez Dieu. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Malgré tout ce que tu lui as fait, tu as vu ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme, une femme remplie du Saint-Esprit, c'est une personne unique. Le ciel entier peut bouger rien que pour cet homme, cette femme. Personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os. Oh, c'est là où le genou commence à vous faire mal. C'est là où la hanche commence à vous faire mal. C'est là où vous tenez le dos comme une femme en travail. Là où les articulations deviennent presque insupportables. Cette douleur, je n'ai jamais imaginé que je pouvais avoir mal comme ça. Satan dit, on fait ça et tu vas voir, il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. À ce moment-là, vous pouvez pleurer. Seigneur, reprends-moi. Tellement c'est dur à supporter. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu. » C'est ce qu'il voulait, que Dieu, que Job maudisse Dieu. Et c'est ce qu'il veut avec nous dans ces temps difficiles. Il veut que nous maudissions Dieu. Ou alors que nous suivions ce qui n'est pas Dieu. Des photos du frère Wanam, on en a quelques-unes ici, dans les tiroirs. Mais de là, les placarder au mur, ne comptez pas sur moi pour le faire. Parce que ça risque de vite devenir une idole. Je vais vous choquer. Même la peinture de Michel-Ange du visage du frère du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas à placarder ça contre le mur, les gens vont se mettre à adorer. Et les adorateurs que Dieu cherche, c'est en esprit et en vérité. Quoi l'avoir déjà dit ici, si la photographie avait existé à l'époque, on avait pris des photos de Jésus-Christ, il ne faut pas adorer les photos de Jésus-Christ. C'est justement dans ces derniers jours que le Saint-Esprit est répandu parmi les gens. C'est très important ce baptême du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que ce sont des jours difficiles. Le Saint-Esprit peut aussi vous aider à discerner le temps dans lequel vous vivez. On a eu un message en ces temps-ci. Prenons juste le titre. C'est une exhortation qui nous dit ceci. Reconnaissez le jour et son message. C'est important de reconnaître le jour dans lequel vous vivez. Parce que le jour dans lequel vous vivez est rattaché à une parole bien déterminée, qui est toujours la parole de Dieu. Et qui renferme les promesses et les choses avec lesquelles vous avez besoin, dont vous avez besoin pour combattre. Quand le catholicisme a pris de l'essor, Luther s'est levé. Il est venu avec cette fameuse phrase qu'on résume, le juste vivra par la foi. Vous savez que la foi est une arme. C'est une arme qui vous sert à combattre l'idolâtrie. Et grâce à cette arme, il a balancé l'hostie par terre, Luther. Tous les autres ont donné dans le panneau. Quand, dans certains événements familiaux, souvent lorsqu'il y a des messes de requiem pour les nôtres qui sont encore catholiques, quand j'y vais, je regarde, je suis étonné de la dévotion avec laquelle les gens vont prendre la communion. Ils ont vraiment l'impression de tenir Jésus dans la main. On leur dit, le corps du Christ, il dit un vibrant Amen. Et il rentre à sa chaise avec une attitude sainte, entre guillemets. Alors dites-lui que c'est juste une pâte de farine qu'on a. Non, il ne vous croira pas. À l'internat, on nous a appris, lorsque l'endroit où c'était stocké, où les hosties étaient stockées, on appelle ça toujours d'ailleurs le tabernacle, chez les catholiques. Quand vous passez devant le tabernacle, il faut faire une genuflexion. Vous savez ça? Ah, beaucoup n'ont pas été catholiques. Hein. À tel point qu'entrer dans une église catholique et que vous vous y retrouvez seul, vous avez un peu peur. Un peu peur. Vous savez, cette même crainte-là, normalement, si pas plus, on devrait l'avoir quand on vient ici. Pourquoi ? Non pas que l'endroit ici en soi est saint, est d'une sainteté particulière. Il est saint dans la mesure où Dieu descend souvent ici. Dieu descend ici lorsque nous nous assemblons. À ce moment-là, on peut dire que c'est saint. C'est pourquoi Quand on se retrouve seul, parfois, pour aller traverser ici, moi, je préfère aller toujours par en bas. Parce que traverser ici, c'est un peu compliqué. C'est un endroit où on s'assemble. Bon, ça arrive de traverser ici, mais quand on traverse ici, ça reste quand même imprégné d'une certaine crainte. Mais eux, c'était le tabernacle. Vous vous agenouillez devant, vous faites votre signe de la croix, et puis vous passez. Ça, dans les derniers jours, les gens sont enclins. C'est depuis quand ça? C'est depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui que ces choses sont arrivées, dans les derniers jours, où on a pris des images pour des idoles, toujours dans les derniers jours. Ce que l'apôtre annonce disant, c'est ce qui a été prophétisé par Joël, il dit, voilà ce qui arrive. Et encore autre chose, lorsqu'il dit, ces gens ne sont pas ivres, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. 1 Pierre. Excusez-moi, 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, amen, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le Saint-Esprit répandu dans les derniers jours vous donnera la force de tenir ferme devant ces gens-là, de ne pas avoir honte de Jésus-Christ. Au contraire, par le Saint-Esprit, vous le louerez encore devant les moqueurs. Mais quand l'esprit n'y est pas, vous aurez honte. Et le frère dit, lui-même le dit, je crois aussi le Seigneur le dit, si vous avez honte de lui, lui aussi il aura honte de vous. Il faut que ça soit le prix d'une conviction. Malgré tous ces moqueurs qui étaient là ce jour-là dans Jérusalem, l'apôtre les a regardés en face et leur a dit, ils ne sont pas ivres. Mais c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Et certains ont cru, d'autres pas. Et ce sera encore toujours pareil aujourd'hui. Certains croiront, d'autres ne croiront pas. Il vous permettra, par ce nom-là, Dieu vous arme également. Le Saint-Esprit lui-même est une arme. Vous savez ça? Vous pouvez regarder dans Éphésiens 6, vos prières, faites-les par le Saint-Esprit. Ça va? Éphésiens 6. verset 17, vous avez une épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Avec lui, la parole devient une arme contre les moqueurs, contre nos adversaires. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le Saint-Esprit vous apprendra à lire des choses que le monde intelligent ne sait pas lire. Amen. Autrement dit, par l'Esprit du Dieu vivant, vous serez capable, comme Daniel, de lire l'écriture qui est sur la muraille. Daniel était capable de lire l'écriture sur la muraille. Non seulement cela, sa prière qu'il fait, le Saint-Esprit le conduit dans Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il a vu ça comment ? Par les livres. Et c'est une écriture qu'il avait là depuis longtemps avec lui. Mais quand le temps est venu, le Saint-Esprit lui a fait remarquer que c'était le temps. Il t'avait dans ça. Ça n'a pas été écrit la veille. Hein. Ça a été écrit avant leur déportation. Il avait ça avec lui. Mais il a compris ça seulement la première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes. Je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et justement, cette période-là a avec elle des promesses qui se rapportent à cette période-là. Ça va ? Ce qui fait, sa prière est tout à fait conforme à ce que Dieu donne en ce jour-là. Pour lire l'écriture sur la muraille, la reine avait dit ceci à son fils Belshazzar, quand l'écriture a été écrite sur le mur, sur la chaux, dans Daniel 5, personne ne savait expliquer cette écriture, mais la reine dit, verset 10, 5, Daniel 5, 10, « La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole, « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. » Elle ne connaissait pas le Saint-Esprit, mais qui avait l'Esprit de Dieu. Pour elle, païenne évidemment, elle va dire des dieux saints, mais nous on sait que c'est l'Esprit de Dieu. Je peux vous prouver tout de suite, toujours par les Écritures, qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, enfin, en tout cas, l'Esprit qui était en Christ. Dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, il nous est dit ceci, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'Esprit de Christ, l'Esprit qui était en Christ, lisez dans Romains 8, on vous dira de quoi il s'agit. De qui il s'agit. Amen. C'est pourquoi les bien-aimés, ben, ils ont perdu leur bâtiment. Priez pour eux, pour les bien-aimés. Prions pour eux. Mais souvenons-nous de ce bateau qui transportait Paul en pleine tempête, où l'ange est venu dire à Paul, ne t'inquiète pas, vous serez tous sains et saufs. Ça va? C'est dans Acte 27. Vous serez tous sains et saufs. Il n'y aura de dommages que le navire. Qu'importe si le navire a coûté des millions, le navire, ce n'est pas important aux yeux de Dieu. Ce qui est important, ce sont les âmes. Reste convaincu qu'il y a des enfants de Dieu là qui ont été malheureux de voir ce bâtiment brûlé. Moi, ce dont je me suis réjoui, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de victimes. Ça, c'est le plus important. Pour le reste, Dieu, si le bâtiment est brûlé, on peut l'adorer dehors, il n'y a pas de souci. Dieu est dans sa création. Dites amen à ça. Donc, les temps dans lesquels nous vivons, je ne sais pas si c'était un incendie criminel, si c'est le cas, ça ne fait que confirmer la parole de Dieu, disant que les derniers jours seront des jours difficiles. Et on voit dans le désarroi des gens combien les gens avaient mis leur confiance dans le bâtiment au lieu de mettre leur confiance en Dieu, leur Sauveur. Prions le Seigneur. Si ça nous arrive ici, que Dieu nous en garde, mais si ça nous arrive, que sa volonté soit faite, soyons là pendant que le bâtiment brûle, louons Dieu devant le bâtiment qui brûle. Ce n'est pas un problème. Amen. Et n'ayez pas honte de le louer. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père céleste, c'est vrai, nous vivons ces jours-ci, ce sont des jours difficiles, mais néanmoins l'apôtre nous dit que c'est aussi, l'Esprit nous dit, c'est aussi le jour favorable, où tu exauces les prières, où tu secours ceux qui ont besoin, ceux qui en ont besoin. Aussi, sois béni, aussi nous voulons te demander, ce soir, nous accordons tous de te souvenir de tes enfants qui ont été frappés par cet incendie. Oh, il y a eu des dommages, rien que sur le bâtiment, mais nous croyons qu'il n'y a pas eu de dommages spirituels. Si c'est le cas, que cela puisse tout simplement aider certains à diriger leur regard vers celui qui est digne d'être adoré et d'être loué. De détourner le regard d'un homme, mais de le tourner vers le Seigneur. Cela nous serve également à cela, que nous puissions voir combien le Seigneur lui seul tient notre destinée et nous tient dans sa main. Et c'est sur lui que nous comptons. Bénis tes enfants ce matin, ce soir, bénis-les et nous te remettons chacun entre tes mains. Sur notre chemin du retour, pour ceux qui resteront, que ta grâce soit sur chacun. Et si nous avons à faire quoi que ce soit, puissions-nous le faire dans le sens de te rendre hommage, de te rendre gloire. Te demandons ton assistance. Accompagne-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.